Bonjour à tous. Ça va être difficile de reprendre la parole après ce film. Et je me souviens quand je me suis converti il y a longtemps, j'allais dire, en 1990. J'habitais chez mes grands-parents. Mes grands-parents avaient des petits catalogues du sel déjà qui existaient. Ils participaient au programme tickets repas. Je crois même que je l'ai fait moi pendant un temps. Et c'est vrai que c'est une organisation qui existe depuis longtemps, un service d'entraide et de liaison. Faut le rapprocher. Il faut parler plus fort. Ouais. Ok. Voilà. Alors moi j'ai eu à cœur ce matin de partager avec vous dans Matthieu chapitre 16. On va lire peut-être quasiment tout le chapitre 16 de Matthieu. Matthieu chapitre 16. J'avais envie de parler de la raison d'être de l'Église. Alors je ne sais pas si on y arrivera totalement, mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire en lisant ce chapitre 16 de Matthieu. J'ai l'impression de passer du coq à l'âne, que j'aurais mieux fait de lire Ésaïe 58 ou Matthieu 25. Mais bon. Voilà. Donc il nous est dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, ayant oublié de prendre des pains, Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des 5 000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous ai pas parlé, que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je, au dire des hommes, moi le Fils de Dieu ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, fils Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et je voudrais lire un autre passage avec vous dans la première épître à Timothée. Première épître à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Ici, nous avons une lettre de l'apôtre Paul à un de ses disciples les plus proches, Timothée, avec qui il a parcouru toute une partie de la Méditerranée de son époque, qu'il l'a enseigné, et finalement il l'a laissé dans une église déjà bien en marche à Éphèse, avec des instructions précises. Et au chapitre 3, verset 14, il écrit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Et nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole et pour la venue de Christ dans le monde qui est la lumière pour éclairer les nations. Nous voulons te remercier de ce qu'il nous aime et de ce qu'il nous a aimé jusqu'à aller pour donner sa vie sur la croix. Merci pour tous ces bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'étais intéressé en regardant le film, ici du sel, et de voir à quel point la mentalité des Occidentaux a changé, même si visiblement ils sont encore trop matérialistes et trop centrés sur eux-mêmes et sur leurs richesses, et peut-être même que ça croît en proportion des richesses. Mais combien la mentalité a changé des Occidentaux par rapport aux personnes des autres nations. Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'avec les élèves au lycée, on a travaillé sur la personne d'Abraham Lincoln. Vous savez, Abraham Lincoln aux États-Unis, qui a sa statue à Washington. Vous savez, vous allez à Washington, vous avez cette statue immense de Lincoln. C'est pas 2 mètres, c'est pas 3 mètres, c'est énorme, hein, c'est un temple avec Lincoln à l'intérieur. Et on a travaillé sur Lincoln dans le cadre d'un des programmes qu'il faut faire, qui est Mythes et héros. Et finalement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit, c'est basé sur un documentaire très bien fait de la BBC, je vous conseille de le regarder, surtout ceux qui comprennent l'anglais, et qui remettent un peu en cause ce mythe d'Abraham Lincoln, qui était le grand émancipateur, le grand sauveur de l'Union des États-Unis. Et finalement, certaines personnes disent « Mais oui, mais Lincoln, il a aussi fait des déclarations très étranges, il est peut-être pas si grand que ça. » Et on peut effectivement trouver des déclarations dans les discours d'Abraham Lincoln, où il dit par exemple... Et ça, quand il était déjà président, où il déclarait, eh bien, dans un débat politique, où il déclarait, je crois que les Noirs, qu'il y a une infériorité physique et intellectuelle entre les Blancs et les Noirs, et je crois que les Noirs ne pourront jamais être citoyens des États-Unis, et je crois que c'est quelque chose qui durera, en anglais, c'est... it's going to last forever, donc pour toujours. Et dans ce documentaire de la BBC, il y a cette idée que finalement, au fur et à mesure, il a réussi à surmonter ses préjugés, parce qu'il semble qu'il avait quand même de réels préjugés, et que c'est en particulier quand il a vu... parce que les Blancs aux États-Unis à cette époque se demandaient, mais si on libère tous les esclaves noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais peut-être qu'ils vont prendre les armes, ils vont se retourner contre nous, ils vont tuer, ça va être la guerre civile. Et donc c'est en voyant au cours de la guerre les Noirs qui étaient libérés, qui prenaient les armes contre les sudistes, ma pauvre femme, que finalement Lincoln et beaucoup des Américains du nord des États-Unis se sont dit, bah oui, mais ils méritent d'être citoyens comme nous. Et finalement, Je crois que la mentalité du monde a vraiment changé à cette époque, donc entre les nations. Vous savez, aujourd'hui, on a depuis 1948, et puis un peu à la fois, on est arrivé à reconnaître qu'on fait tous partie d'un monde où on est quelque part et où on doit être une grande fraternité, on doit s'aimer et on doit bâtir le meilleur des mondes possibles. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que, eh bien, à la base de tout ça, il y avait des chrétiens évangéliques qui ont été les pionniers de l'abolitionnisme et de dire, oui, mais tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Vous savez, tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Et ces noirs, ces esclaves, etc., ils sont créés à l'image de Dieu. Ils ont une dignité. Ils méritent d'être libres. Ils sont nos égaux devant Dieu. Et il y a tout un mouvement qui est derrière ça. Et aux États-Unis, on voit Abraham Lincoln, qui lui était plutôt un politicien, qui semble avoir été assez calculateur quand même, mais qui, bon, est arrivé au bout à déclarer l'émancipation. Mais derrière, il y a tout un mouvement chrétien qui n'est pas vu, avec vous connaissez Charles Finney, et les réveils dans le nord des États-Unis, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de chrétiens dans le sud qui finalement pensaient que l'esclavage se terminerait par lui-même. Mais tout ça a transformé les mentalités du monde, a transformé les mentalités du monde, mais pas au point quand même où nous voudrions qu'il soit aujourd'hui. Et vraiment, j'avais à cœur ce matin de parler de la raison d'être de l'Église de Jésus-Christ. De sa raison d'être, de sa spécificité. Et on peut relire un peu ici dans Matthieu 16. Matthieu 16. Dans les premiers versets, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, ayant oublié de prendre des pains, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus, quand il est venu dans le monde, a été confronté avec une nation juive qui n'était pas prête à le recevoir, qui n'était pas prête à le recevoir, qui avait les Écritures, mais qui n'avait pas compris tout ce que contenaient les Écritures. Et ces choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Si on prend l'histoire d'Israël, Israël a toujours été tenté d'imiter les nations et de tomber dans l'idolâtrie. Et Dieu les a châtiés. Dieu a châtié Israël. Il a permis que leurs ennemis s'attaquent à eux et qu'ils soient souvent réduits dans un tout petit espace, qu'ils soient vraiment en danger. Et là, ils se repentaient de leurs péchés, ils revenaient à Dieu. Et on voit tout un cycle comme ça dans le livre des Juges, hein. Ils s'éloignent de Dieu, puis les ennemis viennent et ils se repentent. Et néanmoins, Dieu a dû continuer à enseigner Israël. De ne pas s'égarer loin de sa loi. Et il les a tellement bien enseignés que finalement, ils ont passé un certain nombre d'années en exil, vous savez, à Babylone et en Assyrie. Mais Dieu les a tellement bien enseignés que finalement, ils n'ont plus été idolâtres. Ils ont renoncé à l'idolâtrie après l'exil à Babylone. On voit, ils partent en exil à Babylone, c'est l'histoire de Daniel, c'est l'histoire d'Ézéchiel. Là-bas, ils souffrent terriblement, il y en a qui meurent, Et puis il y a un petit noyau qui revient, conduit par Esdras et Néhémie. Et finalement, ils reviennent en Israël. C'est difficile. Il faut reconstruire un temple, mais qui est plus petit. Il faut réparer les murailles de Jérusalem. C'est difficile. Et conduit par Esdras et Néhémie, finalement, ils y arrivent. Et ils ont tellement bien appris leur leçon que, eh bien, depuis cette époque, à peu près moins 450 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque de la venue de Christ dans le monde, eh bien, ils ne sont plus jamais retombés dans l'idolâtrie. Alors ça, c'est formidable, hein. Quand même, ils ne sont plus jamais retombés dans l'idolâtrie. Ils sont restés sans idole. Ils n'ont pas recommencé à construire des petites images, non. Ils n'étaient plus idolâtres. On va dire alléluia, merci Seigneur. Mais bon, vous savez, malheureusement, quand Christ est venu, eh bien, ils étaient tombés dans une autre forme d'idolâtrie. Et c'est ce que Jésus dénonce ici comme le levain des pharisiens et des sadducéens. Quand j'étais à l'Institut biblique, on m'a appris dans la Bible, le levain est toujours un symbole du mal. Et je crois que c'est quasiment vrai à 99% dans la Bible, peut-être à 100%. Mais en général, le levain dans la Bible, vous savez le levain, ce que c'est, mesdames? Oui. C'est en général un symbole du péché. Et ici, très clairement dans ce passage, parce qu'il y a les disciples qui n'avaient pas pris de pain, et Christ leur parle. Alors, verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples, ils disent, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? On n'a pas pris de pain avec nous. Et Jésus, il dit, non, c'est pas ça. Gardez-vous avec soin de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et donc là, clairement, dans ce passage-là, au moins dans ce passage-là et dans beaucoup d'autres, le levain est un symbole du mal, du péché. Et Christ symbolisait cet enseignement des pharisiens et des sadducéens par le levain. Donc, les Juifs n'étaient pas retombés dans l'idolâtrie. Alléluia. Merci Seigneur, ils avaient appris leur leçon, mais ils étaient tombés, ils avaient réussi à tomber dans autre chose, ce que Christ appelle le levain des pharisiens et des sadducéens. Et Christ leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, qu'est-ce que c'est, ce levain des pharisiens et des sadducéens? Eh bien, quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit que si Israël s'est gardé du péché d'idolâtrie, il n'a pas réussi à se garder de toute influence du monde. Et si vous connaissez un peu votre histoire du Moyen-Orient, je crois que tu connais un petit peu l'histoire du Moyen-Orient, non ? Il faut réviser ton histoire du Moyen-Orient. Donc vous allez voir qu'Israël, eh bien, finalement, ne va jamais retrouver une pleine liberté. Il va être en prise avec différentes nations. Une de ces nations, ça va être avec Alexandre le Grand et les Grecs. Vous savez, il y a une conquête très rapide du Moyen-Orient d'Alexandre le Grand. Et il semble bien que les Grecs vont laisser une influence sur Israël et en particulier sur certains Juifs qui sont un peu les ancêtres des Sadducéens. Et Jésus nous dit très clairement dans la Bible, les Sadducéens ne croyaient pas aux anges et ne croyaient pas à la résurrection. On va dire, mais c'est bizarre, ils ne croyaient pas aux anges et à la résurrection, tandis que les pharisiens y croyaient. Et ça, cette négation des anges, de la résurrection, eh bien, ça semble bien être dû à une influence grecque, de la culture grecque, où il n'y avait pas ces choses non plus. Et donc, les Sadducéens, c'est des personnes qui ont tendance à mettre en question le surnaturel. Mettre en question les anges, non, il n'y a pas d'anges, vous savez, c'est plus philosophique que ça. La résurrection des corps, mais non, il n'y a pas la résurrection des corps. Il y a sûrement quelque chose après la mort, mais le corps ne va pas ressusciter. C'est très grec comme raisonnement, pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, on connaît une église qui est tombée dans le même problème, qui niait la résurrection des corps et qui était à... Oui, tu as bougé les lèvres, mais... qui était à Corinthe, hein, à Corinthiens 15, où Paul doit leur prouver et dit « Mais si les morts ne ressuscitent pas, eh bien, nous sommes les plus malheureux des hommes. On espère pour rien, quoi. » D'accord ? Et donc ça, c'est le levain des Sadducéens. C'est retranché à la parole de Dieu en particulier surnaturel. Puis il y avait ce deuxième groupe qu'on voit beaucoup plus dans la Bible. On ne voit pas beaucoup les Sadducéens dans le Nouveau Testament. On voit beaucoup plus les pharisiens. Si vous avez lu les évangiles, inévitablement vous connaissez les pharisiens un petit peu. Et où là, Christ leur fait le reproche d'annuler la parole de Dieu par leur tradition. Et c'est très intéressant que Christ mette en garde son Église, ou que cette mise en garde se trouve ici, donne cette mise en garde juste avant de parler du début de l'Église. Parce qu'on a, dans le Nouveau Testament, on a dans Matthieu la première référence à l'Église. Alors on va lire au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, nous avons donc là, juste après cet enseignement, cet avertissement à propos des pharisiens et des sadducéens, on a cette première référence dans le Nouveau Testament. Je crois la première fois, en tout cas, que le mot apparaît, ou une des toutes premières fois, où Christ dit qu'il bâtira son Église. Et c'est intéressant parce qu'il pose la question à ses disciples. Il dit, mais qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns, tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et leur dit, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, mais ça t'a été révélé, pas par les hommes, mais par Dieu. Et c'est vrai que quand on n'a pas la révélation de Dieu, eh bien, on va parler comme les hommes. On va parler comme les hommes et on va adopter la manière de penser des hommes. Mais quand on est à Jésus-Christ, et pour être à Jésus-Christ, il y a besoin d'une révélation de Dieu, d'un changement qui vient de Dieu, d'une mentalité nouvelle. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Et on ne peut pas savoir ces choses sans que ce soit Dieu qui nous révèle. On peut entendre parler de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, il était bien. C'était le premier philosophe, c'était le premier ceci, le premier cela. C'était un enseignant juif un peu radical qui a essayé de changer la religion juive de son temps. Mais il n'est pas le Fils de Dieu, hein? Il n'est pas le Fils de Dieu. Voilà, Dieu est descendu des cieux, qui se fait un petit enfant. Il n'est pas le Fils de Dieu, ça, c'est pas possible. Donc les hommes trouvent d'autres manières de parler de Jésus. Et je sais que mon voisin, j'ai déjà parlé de mon voisin, qui est aussi plus ou moins quasiment notre propriétaire, qui est le beau-fils de notre propriétaire, vous avez déjà dit qu'il avait écrit un livre sur Jésus. Et en fait, j'ai pas tout lu de ce livre, mais en fait, il dit finalement que la conception de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est le résultat d'un métissage de culture, d'un long métissage culturel. Et puis après ce long métissage culturel, ils ont inventé la personne de Jésus-Christ. Et il dit, mais il faut surtout faire attention aux religions, il ne faut pas qu'elles soient trop pures, parce que quand les religions sont trop pures, eh bien, elles sont dangereuses. Les religions trop pures sont dangereuses, vous le savez. l'actualité fondamentaliste, ils vous tuent, et dans d'autres pays, ils sont intolérants, ils sont pas gentils, donc c'est dangereux, une religion trop pure, c'est dangereux. Voilà. Eh bien, Jésus-Christ, il a dit le contraire. Lui, il a dit, il faut se garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Et le danger pour l'Église, à travers les siècles, ça a été toujours quand elle n'a pas su se garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ça, c'est vrai avec l'Église catholique, c'est vrai avec Byzance. Ça a toujours été vrai. Quand l'Église n'a pas su se garder du levain des pharisiens et des sadducéens, elle s'est égarée. Elle s'est égarée. Il y a, par exemple, juste avant l'accession d'Hitler au pouvoir, vous savez, c'est 1939, il y avait les protestants allemands qui avaient été influencés par la pensée de Hegel. Hegel, qui est un philosophe, parle Hegel un peu à Cambridge, pas beaucoup, non? Hegel. Maybe I don't pronounce it right. C'est Noémie. Ok, désolé. Mais donc, ils avaient été influencés par la pensée de Hegel. Et ce qui fait qu'ils avaient une philosophie de l'histoire qui n'était plus héritée de la Bible, mais qui était héritée de ce philosophe allemand. Et il y a toute une partie du protestantisme allemand, quasiment deux tiers, qui avait dans l'idée que la nation allemande était un peu exceptionnelle, avait un destin exceptionnel. Et quand Hitler est venu au pouvoir, ces gens ont été prêts à suivre Hitler. Parce qu'ils se sont dit, il y a cet homme exceptionnel, cet Allemand exceptionnel, qui va nous conduire jusqu'au sommet. Et c'est l'apostasie totale de deux tiers du protestantisme allemand à cette époque, qui vraiment ont suivi Hitler. Il y a à peu près un tiers qui s'est regroupé dans ce qu'on appelle l'église confessante, qui n'était peut-être pas parfaite, mais qui a bien réaffirmé que Christ était exceptionnel, que pour connaître Christ, il faut avoir une révélation de Dieu, et qu'on ne peut pas se laisser emporter par Hitler ou par la philosophie. Et ça, c'est un exemple de ce que l'Église a toujours eu à combattre contre des philosophies erronées. Et Christ a mis en garde là-dessus. Alors si on cherche un peu, si on tourne un peu les pages de notre Nouveau Testament, on verra qu'il y a deux dimensions à l'Église de Jésus-Christ, et j'essaierai de terminer là-dessus. Il y a deux dimensions à l'Église de Jésus-Christ. Il y a la dimension de sa relation avec Dieu. Quelqu'un fait partie de l'Église quand il a cette rencontre avec Christ, quand Christ le transforme, Christ le change, Christ le renouvelle, et il fait partie à ce moment-là de Christ. C'est ce qui est très bien expliqué dans Jean 15, quand il nous est présenté les cèpes et les sarments. On peut lire dans Jean 15, si vous voulez, un petit peu, assez rapidement. Donc, dans Jean 15, il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc ça, c'est bien connu. Mais donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est greffé à Jésus-Christ. Et ça, c'est la première dimension de l'Église, c'est la dimension la plus importante, c'est d'être en communion avec Christ. Et il y a une deuxième dimension, qui est une dimension plus humaine, et qui est peut-être un peu plus difficile à réaliser, parce qu'elle est aussi une œuvre humaine. La première dimension n'est pas difficile à réaliser, parce que c'est totalement l'œuvre de Dieu, l'œuvre que l'œuvre de Dieu envers quelqu'un qui lui dit oui. Une personne qui lui dit oui, Seigneur, je veux t'appartenir, je veux te connaître, je veux repentir de mes péchés, je veux me donner à toi. Bien, Christ fait son œuvre en lui. Et c'est pas une œuvre humaine. La personne, oui, s'est convertie, mais ce n'est pas une œuvre humaine, c'est Christ qui le fait. Il l'intègre en lui, il le prend avec lui, il est transporté dans le royaume de Dieu, il fait partie de Christ. Et ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de Dieu dans une personne. C'est la première dimension, la dimension la plus importante de l'Église. Mais il y a une deuxième dimension de l'Église qui est plus humaine, et c'est celle qu'on voit dans beaucoup de passages, et c'est celle dont on a lu un petit peu, il faudrait lire beaucoup d'autres passages, dans 1 Timothée, chapitre 3. Donc on va relire ça. Un Timothée, chapitre 3, verset 14. Donc je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, etc. Donc cette deuxième dimension, c'est celle du rassemblement chrétien. Dieu a voulu que ses enfants se rassemblent, comme nous sommes rassemblés aujourd'hui, et qu'ils agissent d'un commun accord, et qu'ils annoncent l'Évangile d'un commun accord, et qu'ils fassent du bien autour d'eux d'un commun accord, qu'ils viennent en aide aux pauvres d'un commun accord. Mais ça, c'est une dimension humaine et qui, malheureusement, n'a pas toujours été facile à réaliser. C'est la dimension de l'Église locale. Et cette Église, elle doit être, selon la définition qu'on a ici dans Timothée, donc elle doit être, vous regardez au verset 15, la deuxième partie, donc il dit que l'Église du Dieu vivant, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est la fonction de l'Église, je vais terminer d'ici quelques minutes. L'Église est là pour être la colonne et l'appui de la vérité. Elle n'est pas là pour prêcher n'importe quoi comme message, elle n'est pas là pour faire l'œuvre du monde. On peut faire l'œuvre du monde un petit peu, on peut quelquefois. Mais il y a une chose, par contre, que le monde ne peut pas faire à notre place. Nous, on peut venir. Quand Frédéric présentait le documentaire du sel, et c'est vrai, c'est notre mission, c'est notre devoir d'aider les pauvres, de venir en secourir les pauvres. Et je crois que les chrétiens, si on regarde l'histoire de l'Occident, ils ont été les pionniers de ça. Ils ont été les pionniers de ça et ils ont stimulé la conscience de l'Occident. Si bien que l'Occident nous a bien imités, l'Occident a créé l'ONU, l'Occident a créé toutes sortes de fondations aujourd'hui. Mais si on regarde bien l'histoire, c'est les chrétiens qui ont stimulé. Ça n'existait pas du temps de Charlemagne, d'accord ? Ça existait encore moins du temps de Clovis, ça n'existait pas dans l'Empire romain. D'accord ? C'est les chrétiens qui ont stimulé la conscience a été stimulée à un certain point et ils ont fait ça. Et on doit toujours faire ça. On serait irresponsable de ne pas le faire, on serait désobéissant à Dieu. Mais par contre, il y a une chose que le monde ne fera pas à notre place, et que le monde ne peut pas faire à notre place, c'est de prêcher Jésus-Christ et d'annoncer le salut. Nous pouvons faire un peu comme le monde, et faire même mieux, mais le monde ne peut pas faire comme nous. Ce qui va dans un sens ne va pas dans l'autre. Et l'Église, elle est appelée à être la colonne et l'appui de la vérité. Alors, quelle est la raison d'être de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui ? Eh bien, c'est d'être ça, cette colonne de l'appui de cette colonne et cet appui de la vérité. Et je représenterai un peu sous la forme d'une montagne. Vous savez, d'une montagne sur laquelle tout en haut il y a les neiges qui sont là, les neiges qui si tout va bien avec le climat, reste présente, les glaciers. Et le monde peut arriver jusqu'à certains points. Il y a de la végétation sur cette montagne, il y a beaucoup de choses, mais il ne peut pas arriver jusqu'à ces neiges éternelles, ces sommets où nous, nous arrivons par Jésus-Christ. Et si ces neiges n'existaient plus, ne fondaient plus, bien, oui, n'existaient plus et ne fondaient plus aussi pour laisser couler l'eau vers le monde, pour être le sel de la terre, eh bien la végétation disparaîtrait aussi. Et Christ a dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et notre raison d'être, c'est d'être la colonne et l'appui de la vérité. Et voilà, c'est pour ça que l'Église est tellement importante et personne ne peut la remplacer. Et devons-nous aimer les uns les autres, aimer notre prochain, aimer Dieu, et faire en sorte que ces neiges ne fondent pas, parce que sinon c'est la catastrophe pour le monde, et le monde ne sait pas tout ce qu'il doit au christianisme, à Jésus-Christ. Et même nous ne savons pas, je crois. Je crois qu'on ne sait pas totalement tout ce que Christ a fait à travers son Église, même à travers quelquefois des Églises qui n'étaient pas très fidèles. Et nous devons continuer à être la colonne et l'appui de la vérité. Amen.